un sentiment d'unité, de cohérence, d'appartenance, de valeur, d'autonomie et de confiance organisée autour d'une volonté d'existence.
Identitaise.
Identitaise.
Identitaise. Le podcast qui aborde
la complexité de l'identité antillaise.
Bonjour à tous, bienvenue sur Identitaise. Je suis Adeline et je suis accompagnée de mes co-animateurs Michel.
Enchantée.
Et Jordi.
Salut.
Alors, dans ce premier épisode d'introduction, nous allons vous définir ce qu'est l'identité. Nous allons vous expliquer chacun le rapport que l'on a avec l'identité en général et notre propre identité. Et puis, on va un peu aborder la notion de complexe identitaire. Sans plus attendre, je laisse la parole à Michel.
Alors, qu'est-ce que l'identité ? De façon générale, l'identité, c'est un ensemble d'attributs et de caractéristiques permettant à un individu ou un groupe d'individus de se percevoir comme une entité spécifique par rapport aux autres. Elle est à la fois individuelle et collective. Donc, lorsqu'on parle d'identité individuelle, donc l'identité personnelle, c'est le fruit de la socialisation qui permet la construction du soi. Selon les sociologues, l'identité personnelle se manifeste par le biais d'interactions sociales qui s'effectue tout au long de la vie personnelle de l'individu. Cependant, il est important de préciser en fait que cette identité n'est jamais figée, elle va donc évoluer au cours de l'existence de l'individu et de ses différentes expériences vécues. En gros, l'identité, c'est comme un rapport, elle est relationnelle, elle est sujette à changement en fonction des circonstances et elle équivaut à la relation qu'on construit avec son environnement, que ce soit environnement social, naturel, etc. Ensuite, lorsqu'on parle de l'identité collective, donc on parle par exemple aussi de la notion de groupisme, et je fais appel à un auteur qui est relativement important dans le domaine des études du nationalisme, donc Roger Brubaker. Et en gros, c'est un sentiment d'appartenance, donc appartenance à une société ou à un groupe d'individus trouvant ses origines dans les formes identitaires communautaires, telles que la culture, la nation, les ethnies, mais aussi au travers de formes identitaires sociétales telles que la famille, le travail, la religion, qui sont en fait des liens sociaux provisoires. Les sociologues ou les anthropologues vont traiter les aspects collectifs de l'identité menant à une construction identitaire. Donc vous avez l'identité sociale, politique, culturelle, ethnique, nationale, etc. Donc en fait, il existe plusieurs notions qui sont relativement complexes également, comme identité socioculturelle, ethnoculturelle, sociolinguistique, ethnonationale. Mais de cette identité collective, en fait, il faut retenir trois sous-types d'identité. Vous avez donc l'identité culturelle, qui est un phénomène subjectif et qui est le processus permettant à un groupe d'individus de prendre conscience du fait que les autres individus et groupes pensent et agissent différemment. Les porteurs d'une culture entrent en interaction avec les personnes dont la culture est différente de la leur. Et elle est subjective puisqu'elle va mettre en lumière deux facettes, à savoir la similarité et l'altérité. Ensuite, vous avez l'identité ethnique qui est un phénomène plus objectif à l'échelle politique. Donc, on revient justement à la notion de groupisme. Et là, c'est la conscience d'un groupe, qu'un groupe a de sa position économique, politique et culturelle par rapport aux autres groupes de même type faisant partie du même État. Et peut être à la fois renforcée ou affaiblir la domination de l'État. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle l'identité nationale, donc qui est en lien avec l'identité ethnique. Et là, c'est la conscience d'appartenir à un peuple qui, sous la gouvernance de l'État, a le droit et le devoir de contrôler un territoire bien délimité et de le défendre contre les étrangers si besoin. Donc, vous allez avoir, par exemple, l'apparition d'un discours idéologique, nationaliste. Et en fait, ces notions donc, ont permis au gouvernement d'unifier les groupes socialement et culturellement divergents pour en faire une seule collectivité. Et c'est là, par exemple, qu'on va faire appel à la notion de communauté imaginée, développée par Benedict Anderson, qui est aussi un auteur très important dans les études sur le nationalisme. Alors, les définitions que je vous ai données, en fait, partent tout simplement de mes connaissances, puisqu'en fait, je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et donc, mes intérêts de recherche se concentrent à la fois sur les questions décoloniales, postcoloniales, la région Caraïbe, bien entendu, mais sur les questions liées à l'ethnie, à l'identité, au nationalisme. Et actuellement, ma thèse porte sur l'impact de l'identité dans la vie politique de la Guadeloupe, en me concentrant sur une période allant de 2003 jusqu'à 2009.
Donc, merci Michel pour ta définition. Moi, l'identité, je le définis plus sur un plan individuel et psychologique. C'est là que j'ai mon bagage, j'ai un master en psychologie. Donc nous, on définit l'identité comme un ensemble de critères de définition d'un sujet et un sentiment interne. Et ce sentiment interne est composé de différents sentiments. Un sentiment d'unité, de cohérence, d'appartenance, de valeur, d'autonomie et de confiance organisée autour d'une volonté d'existence. Donc en gros, quand je dis par exemple que je m'appelle Jordi, que je viens de la Martinique, j'ai 30 ans et que je vis au Canada, ben, ça montre différentes parties de mon identité. Il y a une identité, il y a une définition, je me définis comme étant un Martiniquais, donc qui vient de la Martinique avec une culture martiniquaise. Mais je me définis également comme quelqu'un de 30 ans, donc des gens qui sont dans la même tranche d'âge que moi. Et puis ça me permet aussi d'avoir un sentiment d'appartenance, parce que quand je vais parler par exemple d'une Game Boy, et je sais que les personnes de mon âge pourront comprendre la référence, et puis ça crée aussi un sentiment d'appartenance. Et puis en même temps, quand je dis que je vis au Canada, ça montre aussi le style de vie nord-américain que je peux avoir d'une façon générale. Donc en gros, comment on définit l'identité en psychologie, c'est ce nombre d'éléments-là qu'une personne va prendre pour se définir.
Ben, merci à vous deux pour ces définitions. Moi, je n'ai pas de définition à vous donner. Je n'ai pas de maîtrise ou je ne suis pas doctorante. moi, la touche que je vais apporter, c'est plus au niveau de la définition donc, de mon identité. Donc moi, je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne, donc en France. Deux parents martiniquais qui sont nés et qui ont grandi en Martinique. Et donc, on pourrait dire que je suis issue de la diaspora antillaise, je sais pas trop comment le dire. C'est sûr que moi, j'ai toujours eu un rapport complexe avec mon identité parce que je suis née, j'ai grandi en France. Donc, de ce fait, j'ai une culture française et précisément banlieusarde parisienne. Mais en même temps, j'ai ces origines-là. Donc, je suis originaire de la Martinique. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller quand même souvent étant plus jeune. Donc, j'ai très vite eu un rapport avec la Martinique, un rapport avec mes racines. Mais en même temps, quand j'allais là-bas, on savait que je venais de France. Parce que, de par mon accent déjà, parce que... Quand on est quand même dans un pays, on a une attitude propre à ce pays-là. C'est-à-dire que on voyait de par mon attitude, la façon dont j'étais et la façon évidemment dont je parlais, que je venais de France. Donc j'étais un peu comme catégorisée de métro, quoi. Négropolitaine. d'un autre côté, en France, je suis noire, avant tout. Donc, même si j'ai un nom à connotation franco-française, je suis noire. Donc, tout de suite, on voit que je suis française, mais il y a un mais, quoi. Il y a un « ouais, mais tu viens pas d'ici, quand même ». Et donc, en fait, ce sentiment de « tu viens pas d'ici » fait que très vite... Je pense pour de nombreux Antillais comme moi qui sont nés en France, on se rallie du côté des autres personnes discriminées de par leur couleur de peau. Donc je pense aux personnes originaires du Maghreb, originaires d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique de l'Ouest, qui sont des territoires qui ont été colonisés par la France. Mais donc, on se rallie à eux. Il y a comme un sentiment d'appartenance parce que nous aussi, on est discriminés. Mais en même temps, il y a des limites à ce ralliement parce que ces personnes-là, elles ont quand même un lien avec leur pays d'origine. Même si elles sont nées en France, elles ont ce sentiment d'appartenance à, par exemple, à, je suis algérienne, je suis sénégalaise, je suis ivoirienne. Et surtout, elles savent en fait d'où elles viennent en Afrique. Et c'est dans des événements qu'on peut catégoriser de banals, hein, comme par exemple la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, où ces personnes-là vont revendiquer leur appartenance donc à ces pays-là. On va entendre des 1, 2, 3, vive l'Algérie. Bah à ce moment-là, moi, je revendique quoi? Déjà, nous, on n'a pas de... On n'est pas dans la CAN, puisque voilà, de toute façon, même si la Martinique et la Guadeloupe étaient des pays, bah, ils ne seraient pas dans la CAN. Mais en plus, bah, y a cette remise en question de OK, mais moi, je dois supporter la France, mais en même temps, je ne suis pas acceptée en France. Donc, ça a toujours été complexe pour moi. J'ai toujours eu une incompréhension, en fait. Déjà, pourquoi, en fait, la Martinique et la Guadeloupe appartiennent encore à la France. Moi, j'ai très tôt développé cette remise en question parce que j'ai... très, très jeune, en fait, j'ai toujours été intéressée par l'Amérique, la langue anglaise. Moi, j'ai appris l'anglais à partir de l'âge de 9 ans. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, l'anglais, et je voyais que les territoires autour de nous, donc si vous ne le savez pas, la Martinique est entourée de Sainte-Lucie et de la Dominique, et qui sont en fait deux îles anglophones. Et du coup, on voyait toutes ces îles autour de nous qui parlent anglais. On voyait les diasporas, on va dire, des territoires caribéens anglophones. Donc, on voyait ces diasporas à Londres, notamment, mais aussi aux États-Unis, au Canada, etc. Et puis, je comprenais pas. Moi, je me disais, mais pourquoi nous, on parle pas anglais? Mais pourquoi nous, on paraît si détachés, en fait, de la région Caraïbe? Parce que... on est là, on est dans notre cocon, on parle français, mais en même temps, on appartient à la France et on appartient aussi à l'Europe, mais en même temps, géographiquement, physiquement, on n'est pas dans l'Europe. Donc, il y avait plein de... Je sais pas, moi, ça semait la confusion chez moi. Et du coup, j'ai jamais vraiment, je pense, résolu cette problématique. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons qui m'a vraiment motivée à faire ce podcast. Parce que Jordi, je le connais depuis longtemps, c'est un ami d'enfance et je l'ai vu évoluer et je l'ai vu s'impliquer dans ces questions-là, en fait, dans ces questionnements-là. Jordi est quelqu'un de très impliqué dans la vie politique, que ce soit en Martinique, mais que ce soit ici en France et maintenant qu'il est au Canada, maintenant ici même au Canada, il s'implique. Donc c'est quelqu'un qui se préoccupe de ces questions-là et puis... j'ai eu la chance, il y a quelques mois, de faire la merveilleuse rencontre de Michelle, qui, comme elle l'a dit, elle est doctorante et elle a vraiment une expertise et elle se pose vraiment des questions essentielles pour moi sur ce complexe identitaire. Et je me suis dit qu'en fait, avec ces deux personnes, je devais faire quelque chose et qu'en fait, ces deux personnes, finalement, allaient m'aider à résoudre ce problème de complexe identitaire. Donc voilà, les amis, voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. J'avoue tout maintenant.
Merci Adeline pour ton partage et puis merci de nous avoir réunis avec Michel pour t'aider à dépasser ce complexe identitaire. Je t'enverrai la facture après. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont ressorties de ton partage et puis c'est surtout, je vais insister sur et puis comme ça ça montre aussi le rapport qu'il y a de nous lier Michel et moi. Je trouve que c'est une très belle idée que tu as eue, parce que souvent, j'ai eu, ah, mais tu as fait des études de psychologie, mais tu t'intéresses à la politique, on ne voit pas le lien. Et bien, je trouve que l'identité est un bon, on va dire une bonne passerelle pour faire cette connexion-là entre la psychologie et le politique. Et on a donné chacun notre définition de l'identité, mais on a très bien vu qu'elles se recoupaient et puis qu'elles étaient interreliées. Et puis on parlait justement de choses similaires à travers l'identité. Et aussi, si on peut prendre un exemple assez flagrant, on va dire, où l'identité individuelle et collective se rejoignent avec une politique, par exemple. On peut voir la politique d'assimilation où là, l'identité culturelle va directement être impactée et surtout l'identité individuelle dans le sens où on va vouloir imposer une nouvelle identité culturelle et puis ces personnes-là vont le recevoir comme une attaque personnelle à leur propre identité. Donc quand je disais que je m'inscris en disant que je suis martiniquais, en me présentant, je m'inscris dans une éducation, c'est pour définir mon éducation, pour dire que j'ai une éducation martiniquaise, une culture martiniquaise, mais quand on va venir vouloir m'assimiler à une autre culture, ça va venir tout de suite toucher cette identité-là, cette éducation que j'ai reçue. Et puis on voit que, ben, comment une politique peut venir toucher un individu dans son ressenti personnel, on va dire.
J'aime beaucoup vos interventions. J'aimerais un peu aussi rajouter mon grain de sel. Je me suis intéressée à la question identitaire vers la fin de la rédaction de mon mémoire. En fait, j'ai écrit un mémoire concernant la question nationale et la départementalisation en Guadeloupe de 1950 à 90. Et donc, au cours de mes recherches, donc, je me suis rendu compte que la littérature s'intéressait beaucoup aux raisons politiques et économiques donc, des contestations liées à la départementalisation. Perçu à la fois chez certains hommes et femmes politiques, mais aussi chez les groupes indépendantistes nationalistes. Sauf que je remarque à chaque fois qu'il y a un court passage dédié aux revendications identitaires culturelles. Alors oui, on va parler de l'apport des intellectuels comme Édouard Glissant, Aimé Césaire, etc. Mais je me dis que ce n'est pas suffisamment développé et il y a quelque chose à regarder. Donc en fait, ma thèse justement vient compléter les premières recherches que j'ai déjà effectuées dans le cadre de mon mémoire et je veux vraiment démontrer que justement l'identité guadeloupéenne, puisque la Guadeloupe c'est mon cas d'étude, mais que l'identité antillaise et sa complexité de façon générale a un impact en fait sur la vie politique. C'est-à-dire que indépendamment comment un individu, donc un Guadeloupéen, Guadeloupéenne, Martiniquais, Martiniquais se définit. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail autour de l'histoire personnelle, mais aussi l'identité collective, donc la mémoire collective, les monuments, qu'est-ce qui me rattache à tel ou tel personnage, qu'est-ce qui me rattache à telle ou telle histoire, pour qu'après moi, en tant qu'individu, je puisse me définir, comme par exemple, moi je me définis comme étant une femme afro-caribéenne issue d'une famille métissée de nationalité française. Là, j'apporte vraiment une précision sur qui je suis, mais c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de faire ce travail-là, puisqu'il y a vraiment un flou même, je dirais, autour de l'identité antillaise. Donc à partir de là, lorsqu'un individu est en mesure de s'auto-identifier, ça veut dire que lorsqu'on va, par exemple, présenter un projet politique et social, que ce soit pour la Guadeloupe ou la Martinique, l'individu se dira, indépendamment de comment moi je me perçois, est-ce que je sens que mon identité est aussi rattachée à la culture française ou non? Est-ce que cette personne veut maintenir le statu quo, veut choisir une autonomie ou tout simplement demande une indépendance? Je veux toujours faire ce lien-là parce que j'estime qu'il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher, trifouiller dans tout ce que les études décoloniales abordent autour de justement le processus de décolonisation, qu'elle soit une trajectoire classique, donc c'est-à-dire qui emmène vers l'indépendance ou Dans notre cas, et bien entendu, nous ne sommes pas les seuls dans la Caraïbe, ce qu'on appelle l'intégration, enfin la décolonisation par intégration, donc on fait vraiment le chemin inverse, mais aussi comment nous, Antillais francophones, nous sommes perçus sur la région Caraïbe. Parce que oui, nous partageons une histoire commune qui est certes la colonisation, mais beaucoup d'îles anglophones, hispanophones ont fini à un moment donné par prendre leur indépendance.
Ouais.
Donc ça veut dire que nous, en tant qu'Antillais francophones, mine de rien, nous sentons isolés. Mm-hmm. Alors, nous avons rejoint des institutions caribéennes telles que la CARICOM, par exemple, ou l'OECS, je crois, si je ne me trompe pas. Mais il n'empêche que il y a encore du chemin à faire. Mm-hmm. Il y a encore du chemin à faire. Donc, si on n'est pas en mesure de s'auto-identifier, mais aussi d'établir une définition, de donner des caractéristiques, je dirais, de ce qu'on entend par l'identité guadeloupéenne-martiniquaise, donc c'est-à-dire l'identité collective, comment après on fait pour permettre à une population de l'attirer vers un projet politique qui peut soit mener vers une autonomie ou une indépendance. Si le travail n'est pas fait, le travail d'éducation n'est pas fait dès le départ, c'est sûr que des notions, comme je l'ai cité, comme autonomie, indépendance, statu quo, des notions qui sont encore très floues, je dirais, pour le public en général, c'est clair que ben, on va encore vivre dans ce flou-là et qu'on ne verra pas forcément une évolution statutaire majeure dans les années à venir.
Je voulais juste revenir sur... tu sais, tu as parlé du CARICOM. Mmh. Et par exemple, je sais que dans le CARICOM, les îles qui font partie du CARICOM ont la similarité à l'espace Schengen, c'est-à-dire que tu peux aller, par exemple, si je ne sais plus c'est quoi les îles exactement, mais par exemple, si tu es haïtien et que tu veux aller t'installer à Antigua et Barbuda, ben, avec ton passeport haïtien, t'as pas besoin de faire de démarches administratives au niveau de l'immigration. Mmh. Ton passeport haïtien suffit pour que tu puisses t'installer là-bas, ce qui n'est pas le cas de la Martinique et la Guadeloupe, puisque nous avons un passeport français. Donc, encore une fois, oui, on peut aller s'installer en Espagne, à Amsterdam et tout, c'est cool, mais on peut même pas aller s'installer dans des îles à quelques kilomètres de chez nous, en fait. Mmh. Donc, là aussi, on voit à quel point c'est paradoxal, tout ça.
Tout à fait.
J'aime beaucoup ce que vous apportez là, en ce moment. Et puis, paradoxal, ben, ça montre encore pour moi le lien en quoi le politique a une influence sur l'individuel, dans le sens où, quand on parlait d'identité, quand j'ai donné la définition d'identité d'un point de vue psychologique, on parlait d'un sentiment d'unité, de cohérence, sentiment d'appartenance. Et puis là, dans vos partages, on entend très bien que ben, ce sentiment de cohérence-là, il n'est pas là. Mm-hmm. Il n'est pas là juste d'un point de vue géographique, puisque quand on nous dit qu'on est français, mais que la France se trouve à 8000 km et n'a pas les mêmes réalités géographiques qu'on puisse avoir dans le bassin caribéen, donc là, il y a déjà une incohérence qui est placée. Après, il y a une incohérence dans le bassin caribéen même qui mm-hmm. est placée également, comme vous l'avez apporté, dans le sens où on est français dans un bassin principalement hispano-anglo-saxon, donc qui pose encore des difficultés, puis qui pose une difficulté dans le sentiment d'appartenance. Donc comment on peut avoir ce sentiment d'appartenance-là à une Caraïbe qui, au final, on peut pas s'exprimer pleinement dans ce bassin-là par la barrière de la langue, mm-hmm. la barrière du statut qui nous empêche de faire partie de la CARICOM, par exemple. Donc, on voit comment l'identité individuelle peut être entachée par des politiques et l'identité politique qu'un pays essaye d'imposer à un territoire. Donc, c'est vraiment intéressant, vos partages.
Mm-hmm.
Et aussi, pour revenir sur ce que tu disais, Adeline, au début, sur on va aller chercher le sentiment d'appartenance avec les personnes qui nous ressemblent le plus si on est dans un territoire occidental comme la France et que... Mais on va se rapprocher des personnes qui viennent du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Mais là encore, on rencontre une incohérence quand, par exemple, il arrive des événements où il va s'agir de revendiquer son pays. Et puis là, on est encore face à une incohérence. On se dit, mais quel pays revendiquer? Et puis moi, je sais qu'à la Coupe du Monde, quand j'étais jeune, je ne sais pas si elle serait d'accord pour que je dise ça, mais ma mère n'a jamais supporté la France, elle supportait le Brésil. Et puis moi, je ne comprenais pas dans le temps, mais je pense qu'il y a cette incohérence-là de dire à des personnes de soutenir un drapeau, un pays auquel ils ne se reconnaissent pas forcément. Donc, malgré tous les efforts d'assimilation ou bien d'intégration, chacun le verra comme il est, il y a quelque chose d'une expérience personnelle, d'une historique qui fait que... la cohérence qu'on voudrait créer dans l'identité des personnes antillaises en disant qu'elles sont françaises malgré tout ne fonctionne pas.
Mais ce que vous dites là, vous donnez justement des exemples, Coupe du Monde, etc. Ça me fait penser justement à un auteur qui est connu dans les études sur le nationalisme, qui s'appelle Billing, et il fait la différence en ce qu'on appelle nationalisme banal et nationalisme haut. Nationalisme banal, c'est les symboles qu'on voit un peu tous les jours, la langue, etc., le drapeau et tout. Et le nationalisme haut, en fait, c'est lié à des événements clés. Alors, vous avez parlé de Coupe du Monde, ça peut être d'autres événements historiques, etc. Et là, vraiment, il y aura une résurgence. Je dirais, du sentiment d'appartenance, du sentiment national. Et vous avez fait justement le rapport par rapport à nous, Antillais francophones, où beaucoup de Guadeloupéens, Martiniquais, indépendamment des événements, ne se sentent pas forcément en accord avec certains événements. Donc, que ça soit la Coupe du Monde, alors ça peut être un choix personnel, hein, que ça soit Coupe du Monde ou autre, en fait, c'est comme s'il y a un sentiment où, bon, d'accord, je suis conscient que je suis sous administration française, mais ça ne veut pas dire au fond de moi que forcément je porte l'histoire, la culture française dans mon identité. Je vais me définir, par exemple, comme quelqu'un ayant des origines africaines ou indiennes, etc., tout en excluant la culture française. Donc ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte. Et c'est sûr qu'on a tendance alors à, on va dire, prendre la théorie pour un peu le mettre en pratique. Mais c'est sûr que lorsqu'on regarde, quand je reprends justement l'exemple de Billing, nationalisme haut, nationalisme banal, dans le cas des Antilles françaises, c'est complexe. Puisqu'il y a déjà cette complexité même autour de l'identité antillaise et qu'on n'arrive pas à définir, puisqu'elle est prise entre différentes notions, donc la francité, la créolisation, la créolité, l'antillanité, l'afrocentricité, l'indianité, en fait, tellement de notions qui font que les différentes communautés ethniques qui composent la Guadeloupe et la Martinique, parce que ça, on ne le dit pas aussi, nous avons beaucoup de communautés ethniques qui composent nos îles, indépendamment de comment la personne va se définir, ben, c'est soit elle va se dire, bon, je soutiens la France parce que telle chose, telle chose, telle chose, ou tout simplement la personne dira que ben, moi, je ne me sens pas français, donc je ne soutiens pas la France et ça s'arrête là.
Mais Michel, merci parce que ça montre comment l'identité, déjà, c'est une construction et puis comment l'identité aussi peut être plurielle. Mais j'ai l'impression que ce qui nous empêche justement d'accepter cette identité plurielle-là, déjà, ça vient de tous les, comme je disais, les sentiments internes qu'on a qui ne trouvent pas de cohérence, qui ne trouvent pas de sentiment d'appartenance dû à une politique française d'universalisme aussi. Donc, il y a toute une idée aussi qu'au final, il faudrait être homogène pour avoir une identité, alors que... Donc, on est en train de se battre contre deux idéologies à chaque fois. Une idéologie qui accepte la pluralité de la diversité, la pluralité d'origine, la pluralité ethnique. Et puis, une autre idéologie qui est très puissante et qui est coloniale. Et puis, du coup, ce qui va avec, donc l'oppression, la force qui dit qu'il faut être universaliste, il faut être homogène, tout le monde pareil, pour avoir une identité forte. Et là aussi, il y a peut-être des difficultés à construire une identité qui serait, ou bien à rendre plus conscient une identité qui serait antillaise, caribéenne. C'est dans le sens où, justement, on ne peut... nos sentiments internes sont tout le temps remis en cause par une hégémonie occidentale qui remet en cause tout le temps cette identité, qui l'attaque en permanence, qui la dénigre également. Donc on voit comment, même s'il y a cette recherche, et puis on peut avoir des critiques sur la façon dont c'est fait, ou ça prend trop de temps pour définir une identité, mais on voit comment cette identité est un parcours, elle est complexe, mais comment elle est aussi attaquée en permanence, et puis qui empêche ce travail, en fait, de créer une cohésion malgré nos différences.
Vous venez d'écouter Identithèse, un concept pensé, recherché et réalisé par Michel Martineau, Jordi Bellens et Adeline Louison. Au montage, Adeline Louison. Et musique, libre de droit, par Olive Musique.